Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, méditons ensemble sur le verset 261 de la sainte sourate Al-Baqara. Notre frère Bouroumand vous en donne la lecture chantée, vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset prône la largesse qui est bien récompensée par Dieu.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم صدق الله العلي العظيم.
Il est de ceux qui font largesse de leurs biens dans le sentier de Dieu, comme d'un grain d'où naissent sept épis à cent grains l'épi, car Dieu multiplie en faveur de qui il veut. Dieu est immense, il sait.
Thank you. Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver en ce dimanche 3 octobre 2021. Nous allons vous présenter tout de suite le journal, suivi d'un commentaire politique. L'armée US a perdu à tout niveau. Déclaration du leader de la révolution islamique, ce dimanche. Vous aurez ensuite la seconde partie de l'émission. Merci de votre écoute. Bonjour et bonsoir selon l'heure que vous nous suivez. À la une de ce journal, les forces armées sont une barrière solide contre les menaces de l'ennemi. Déclaration ce dimanche du leader de la révolution islamique, l'honorable Ayatollah Khamenei. L'Iran reprendra bientôt les négociations nucléaires, a déclaré Amir Abdollahian, ministre des Affaires étrangères. Et puis un rapport d'enquête a lié une base de la Royal Air Force britannique à l'assassinat américain du général iranien Qassem Soleimani. C'était les principaux titres que nous allons tout de suite développer dans ce journal. Bienvenue à tous. Les forces armées sont une barrière solide contre les menaces de l'ennemi. Déclaration ce dimanche du leader de la République islamique d'Iran. L'Ayatollah Sayyed Ali Khamenei a décrit les forces armées du pays comme un bouclier défensif contre les menaces. L'Ayatollah Khamenei a déclaré que les forces armées servaient de forteresse robuste pour le pays et la nation. Il a déclaré que l'ensemble des forces armées iraniennes, y compris l'armée, le corps des gardiens, CGRI, la police et la mobilisation populaire, sont un rempart contre les menaces ennemies, à la fois à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Il a déclaré que la sécurité d'un pays est fondamentale pour que toutes ses activités progressent. Le leader a déclaré que le devoir le plus important des forces armées est d'assurer la sécurité. L'Ayatollah Khamenei a ajouté que la présence des États-Unis dans la région a causé la destruction et le bellicisme. Il a souligné que les armées des pays de la région devaient rester indépendantes tout en travaillant en tandem avec les forces armées des pays voisins. L'Iran reprendra bientôt les négociations nucléaires en marge de l'Assemblée générale de l'ONU. L'une des préoccupations des Américains concernait les questions nucléaires. Notre logique est la logique de la négociation et du dialogue. Et nous reviendrons bientôt à la négociation, a déclaré le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian. Il a déclaré samedi soir dans une émission télévisée en direct de la chaîne 1 de la télévision iranienne. En marge de mon déplacement à New York, nous avons eu 18 rencontres avec des pays européens et ces pays insistaient lors de ces rencontres sur l'économie et l'échange et la coopération. Nous sommes parvenus à de bons accords dans toutes les réunions. À l'Assemblée générale de l'ONU, tout le monde a attentivement écouté le discours du président de la République islamique d'Iran. Et ce discours, basé sur les résultats reçus, a été l'un des discours les plus logiques, francs et puissants prononcés à l'ONU, a ajouté le chef de la diplomatie. Nous avons également eu des réunions avec les Américains en marge de l'Assemblée générale de l'ONU et l'une des questions des Américains de l'Iran concernait les questions nucléaires. Cependant, notre logique et la logique de la négociation et du dialogue, nous reviendrons bientôt à la négociation, a ajouté Amir Abdollahian. Le porte-parole de la diplomatie iranienne a souligné l'engagement de l'Iran en faveur du dialogue et de la diplomatie. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Saïd Khatibzadeh, a souligné l'engagement de l'Iran en faveur du dialogue et de la diplomatie comme la seule voie à suivre à ses yeux. Le porte-parole, Saïd Khatibzadeh, a publié les détails de son voyage en France sur sa page Twitter. Dans mon discours au Forum mondial Normandie, pour la paix, ainsi que lors de réunions avec mes homologues français, les médias et think tanks français, j'ai souligné l'engagement de l'Iran en faveur du dialogue et de la diplomatie comme seule voie à suivre. L'Iran ne tolère jamais la présence du régime sioniste près de sa frontière. Nous ne tolérerons jamais la présence du faux régime sioniste et ses actions provocatrices près de la frontière iranienne, a déclaré le ministre iranien des Affaires étrangères. Monsieur Abdollahian a déclaré samedi soir dans une émission télévisée en direct de la chaîne 1 de télévision iranienne concernant les récents événements dans les rapports entre la République islamique d'Iran et la République d'Azerbaïdjan. Les relations entre les deux pays sont en excellent état. Il existe une relation forte et croissante entre les deux pays. Mais des choses se sont passées ces derniers mois, notamment après la libération des zones occupées du Haut-Karabakh. La République islamique d'Iran a également soutenu la libération de ses zones occupées au plus haut niveau et a concentré son soutien sur cette question. Mais pendant la libération du Haut-Karabakh, de mauvaises choses se sont produites et de mouvements terroristes ont été transférés vers cette zone critique. Un rapport d'enquête a lié une base de la Royal Air Force britannique à l'assassinat américain du général iranien Qassem Soleimani. Le journaliste londonien Barnaby Pace a publié un rapport qui conclut que le site de renseignement secret de Menwith Hill dans le Yorkshire a probablement été utilisé pour aider à la frappe de drones mortels de 2020 en Irak. Les militants ont appelé les ministres à expliquer si la base de renseignement secrète britannique dans le Yorkshire est impliquée dans les récents assassinats de drones après la publication d'un rapport qui soulève des questions sur l'implication du Royaume-Uni dans les attaques américaines. La recherche conclut qu'il était probable que le très haut général iranien Qassem Soleimani ait été tué en janvier de l'année dernière en utilisant des informations obtenues sur le site britannique, essentiellement un avant-poste de l'Agence de sécurité nationale américaine. Fin de ce journal. Dans quelques minutes, notre commentaire politique. Merci d'être avec nous. L'armée US a perdu à tout niveau. Lors d'une audience accordée aux diplômés de l'Académie militaire iranienne, le leader de la révolution islamique, l'Ayatollah Khamenei, a dénoncé des États de la région qui s'appuient sur des pays extra-régionaux dans leur quête de sécurité. Vous, nos jeunes combattants, vous êtes le motif de la fierté de notre nation, car vous êtes un solide rempart, un bouclier qui protège notre pays contre les menaces extérieures et les défis intérieurs. Vous êtes la quintessence même de ce verset coranique auquel se référait le premier imam des chiites et qui voit à travers les forces armées un obstacle à tout danger qui pourrait encourir de près ou de loin un État-nation. L'armée, l'OCGRI ou encore le corps des forces mobilisées entre cette catégorie, ce sont eux une solide barrière contre les forces ennemies, a-t-il souligné. Plus loin dans ses propos, le leader de la révolution islamique a souligné que la sécurité est le principal capital ou la première infrastructure d'un pays, car elle sous-tend toutes les autres activités d'un État, sa marche en avant, et c'est cette même question de sécurité qui devrait être la première priorité des forces armées d'un pays. Ces pays qui se font illusion et qui cherchent à s'assurer leur sécurité en s'appuyant sur les autres, et bien qu'ils le sachent, ils en mordront bientôt les doigts. Dans notre région, la présence des armées extra-régionales n'a jamais cessé d'être la source du bellicisme, de tensions et de destructions. Les États de la région devront œuvrer dans le sens d'une totale indépendance de leur armée et une armée indépendante. Cela veut dire une armée qui s'appuie sur le peuple et qui opère en synchronie avec les armées des pays voisins et régionales. Et c'est cela que pourraient se concrétiser les intérêts de tous les États de la région. Une armée comme celle des États-Unis, équipée d'armes conventionnelles et non conventionnelles, a débarqué dans un pays voisin, l'Afghanistan, pour y renverser le gouvernement des talibans. Elle y est restée pendant 20 ans et n'a manqué de commettre toute forme de crimes et d'atrocités. Cette armée a occupé l'Afghanistan, y a cultivé des narcotiques, a détruit des infrastructures et puis au bout de 20 ans, a remis le pouvoir aux talibans et s'en sont retirés. En effet, l'état dans lequel se trouvait l'armée américaine lors de son retrait d'Afghanistan en reflète la vraie nature. Ces images hollywoodiennes de l'armée américaine et d'autres armées qui lui ressemblent ne sont que de purs spectacles. La vérité, c'est ce que nous avons vu à l'aéroport de Kaboul, a-t-il dit. Plus loin encore, l'ayatollah Khomeini a souligné la haine qu'aspire l'armée américaine au peuple des pays de l'Est de l'Asie. Là où les Américains s'ingèrent, ils ne provoquent que la haine et l'aversion. Au fait, la présence des forces étrangères ne fait que semer la discorde. D'où la nécessité d'avoir des forces armées indépendantes. À l'échelle de notre région, les armées des États qui la peuplent sont parfaitement à même d'en assurer la sécurité collective. Il ne faut à aucun prix que les parties tierces s'en mêlent. Plus loin toujours, l'ayatollah Khamenei a évoqué les tensions sur les frontières avec la République d'Azerbaïdjan, les événements qui se déroulent sur les frontières du nord-ouest iranien avec certains de nos voisins devront être réglés suivant cette même logique qui vise à éviter les ingérences extra-régionales. Les forces armées iraniennes ont prouvé à plus d'une reprise qu'elles agissent avec sagesse et rationalisme, et ce mode de faire devra offrir un modèle aux autres pays de la région. Qu'on le sache, quiconque cherche à piéger se fait piéger en premier. Le leader de la révolution islamique n'a pas manqué non plus à aborder le cas des armées européennes en une allusion directe à l'accord AUKUS et à ses conséquences directes pour la France. Certains pays européens ont qualifié cette démarche américaine de couteau planté dans leur dos et ont été même jusqu'à préconiser la création d'une armée européenne indépendante de l'OTAN et, à vrai dire, des États-Unis, de façon à ce que l'Europe assure elle-même sa sécurité. C'est dire à quel point la sécurité est une affaire endogène et inhérente à l'essence d'une nation, sinon comment expliquer que des États européens, qui voient à travers les États-Unis un allié, en sont arrivés à cette conclusion que leurs armées devraient être indépendantes.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle édition du débat en ce samedi 2 octobre 2021. La diplomatie iranienne a déclaré que Téhéran déciderait dans les prochaines semaines d'une date pour relancer l'accord nucléaire de 2015. Dans ce contexte, le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a critiqué l'approche actuelle de l'administration américaine qui contredit en effet les critiques du président américain Joe Biden à l'égard de son prédécesseur vis-à-vis de la République islamique d'Iran. En effet, Joe Biden avait promis de réintégrer l'accord nucléaire, mais contrairement à cette promesse, en effet, les États-Unis tergiversent toujours en ce qui concerne la relance de l'accord nucléaire de 2015 et les autorités américaines continuent de renvoyer la balle dans le camp de la République islamique d'Iran. À rappeler que depuis avril, l'Iran et les autres signataires du PGAC, Plan Global d'Action Conjoint, ont tenu 6 séries de pourparlers, mais des pourparlers sont toujours en effet dans l'impasse en raison des tergiversations de l'administration américaine et de l'inaction des parties européennes. Aujourd'hui, dans le cadre de cette édition du débat, nous allons nous pencher sur les tout derniers développements relatifs à l'accord nucléaire et à son avenir. Veuillez rester avec nous jusqu'à la fin de cette émission.
Le chef de la politique étrangère de l'Union européenne a déclaré que les pourparlers sur l'accord nucléaire de l'Iran étaient dans une étape critique.
This is a key moment for the nuclear deal.
C'est un moment clé pour l'accord nucléaire et nous continuons à travailler pour une reprise rapide des négociations à Vienne. Là aussi, vous pouvez jouer un rôle important en poussant ces négociations à reprendre dès que possible. Nous savons tous les deux que l'Iran est prêt à se réengager, à reprendre, mais cela doit être fait le plus rapidement possible. J'ai discuté avec le ministre des Affaires étrangères d'Iran, le nouveau ministre des Affaires étrangères d'Iran, et quand il m'a dit « bientôt », j'ai compris que ce serait bientôt, sur une certaine durée, conformément à la demande des autres membres du PGAC. En tant que coordinateur de ces pourparlers, je suis convaincu que les pourparlers reprendront dans un laps de temps qui sera acceptable pour tout le monde.
Joseph Borrell s'exprimait lors d'une conférence de presse commune avec le ministre qatari des Affaires étrangères. Soulignant que l'Europe s'est rangée du côté des États-Unis en violant le Conseil de sécurité de l'ONU, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a déclaré « L'Iran n'accepte rien de plus que ce qui a été inclus dans l'accord nucléaire de 2015 et rien de moins que des clauses sur la levée des sanctions ». Saïd Khatibzadeh, qui s'est rendu à Paris dans le cadre de la conférence internationale Normandie pour la paix, a été interviewé jeudi par le journal français Le Monde. Au sujet des propos du ministre iranien des Affaires étrangères qui a fait part d'une reprise imminente des négociations sur le nucléaire iranien, M. Khatibzadeh a dit « Ce que le ministre iranien des Affaires étrangères a annoncé à New York n'était pas une chose nouvelle ». Il a poursuivi « Cette réponse comporte deux volets. Le premier est que l'Iran réfléchit définitivement à la manière de poursuivre les pourparlers, ce qui a déjà été fait, c'est-à-dire que les négociations se reprendront sûrement. Et la deuxième phase consiste à examiner attentivement les pourparlers avec le nouveau gouvernement pour clarifier ses dimensions et ses détails pour entrer dans les pourparlers de manière active et efficace. »
Retour au plateau de l'émission du débat. Merci de votre fidélité. Permettez-moi de vous présenter tout de suite nos invités pour cette émission. Nous sommes en ligne depuis Bruxelles avec Luc Michel, géopoliticien, et toujours depuis Bruxelles avec Xavier Dupré, économiste et analyste politique. Et Monsieur Dupré, bonjour et merci infiniment d'avoir accepté notre invitation.
Merci beaucoup. Bonjour à vous.
Monsieur Dupré, comme vous le savez, alors les négociations sur la relance de l'accord nucléaire de 2015 sont en quelque sorte dans l'impasse, sont interrompus depuis juin. Et bien entendu, dans ce contexte, la République islamique d'Iran décidera dans les prochaines semaines d'une date pour la relance de l'accord nucléaire. Mais la question qui se pose, la République islamique d'Iran s'est engagée à en effet respecter strictement, pleinement ses obligations. Mais du côté des États-Unis, pourquoi l'administration Biden rechigne toujours à réintégrer l'accord nucléaire? Comment justifier en effet les tergiversations de l'administration américaine?
Alors, je voudrais tout simplement observer tout d'abord que je n'ai pas à les justifier, mais à les analyser. Je crois qu'il est important de comprendre que les États-Unis, à propos desquels les médias, spécialement les médias occidentaux, ont beaucoup glosé sur un retour au multilatéralisme grâce à Joe Biden, sous l'égide de Joe Biden. En fait, les États-Unis aujourd'hui sont une puissance profondément déclinante face aux nouveaux alliés de l'Iran, que sont les États-Unis, que sont la Russie et la Chine. De ce fait, les États-Unis renâclent de plus en plus à honorer les promesses électorales qui ont été faites par Joe Biden. Quelque part, les États-Unis sont aujourd'hui un fauve blessé. C'est un empire à la puissance déclinante et de ce fait, ils hésitent de plus en plus à s'engager de manière ferme sur la voie du multilatéralisme. Dès lors, on n'observera pas spécialement, jusqu'à présent en tout cas, de grandes modifications dans leur ligne d'action entre l'administration Biden et l'administration Trump qui l'a précédée. Alors, de ce point de vue, là, on peut tenir une explication structurelle. De surcroît, je crois qu'il faut vraiment se rendre compte de ce que, malgré le contrôle du Parti démocrate sur l'ensemble, les deux chambres du Congrès, il reste en tout cas aux États-Unis un souvenir de la société civile, des électeurs, en ce qui concerne l'administration précédente, l'administration Trump, qui n'est pas si mauvais que ça. Économiquement, le pays allait bien. Dès lors, pour des raisons de calcul électoraliste, la présente administration, l'administration Biden, donc, a tendance à flatter, à se ménager la partie républicaine de l'opinion publique. Ce faisant, tout cela pèse évidemment sur et exerce une influence négative sur les négociations en cours en ce qui concerne le PGAC. Alors, qu'en sera-t-il à l'avenir ? Je n'ai pas de boule de cristal, mais je pense que les États-Unis devraient à un moment donné intégrer le fait qu'ils ne sont plus une puissance hégémonique disposant d'un monopole d'influence sur la scène internationale, comme ce fut le cas après la chute du mur de Berlin. Il serait heureux qu'ils s'en rendent compte. Le feront-ils ? Je n'en sais rien. Mais pour l'instant, en tout cas, on voit clairement que l'administration Biden reprend à son compte une partie des thèses et des orientations qui étaient celles de l'administration Trump, et spécialement en ce qui concerne le PGAC. Il y a une envie très nette de sortir des termes précis des accords de 2015 pour englober toute une série de questions qui, à l'époque, n'ont jamais été abordées et ne faisaient donc pas l'objet d'un compromis. Et donc, de ce point de vue, il faut, je crois, se montrer prudent, attendre et surtout faire preuve de fermeté. Ce qu'a, en 2018, la sortie unilatérale des accords de la part de l'administration Trump a profondément fragilisé le droit international. Dès lors, il est important que la République islamique d'Iran fasse preuve de fermeté, puisqu'il s'agit tout simplement, à travers ces négociations à Vienne, de valider, d'appuyer, d'encourager à ce qu'un ordre international, une structure, une architecture des relations internationales basée un tant soit peu sur du droit et des compromis équilibrés puisse subsister à l'avenir.
Merci infiniment pour ces éclairages, Monsieur Dupré. Restez avec nous. On va tout de suite rejoindre Luc Michel, géopoliticien. Monsieur Michel, bonjour et merci d'être en ligne avec nous.
Bonjour à vous, bonjour à votre plateau, bonjour à nos téléspectateurs.
Et vous, Monsieur Michel, comment analysez-vous cette hésitation, voire cette tergiversation de l'administration américaine, l'administration Biden, à rejoindre l'accord nucléaire? Est-ce que là, il faudrait voir alors des raisons de politique intérieure ou bien alors ce refus traditionnel des États-Unis de s'aligner en effet sur des approches multilatérales?
Il faut tout d'abord constater que si l'Iran est sincère dans sa volonté de retour aux accords de Genève, ni les Américains, ni leurs porteurs de valises, leurs domestiques européens, ne sont sincères. Ils voudraient, comme voulait Donald Trump, que l'Iran renégocie son secteur balistique et sa politique de l'axe de la résistance. Il y a quelques jours, Blinken, le secrétaire d'État américain, d'ailleurs, allait plus loin que Borrell, puisqu'il disait douter profondément du retour aux accords de Genève. Par contre, je ne crois pas que ce sont des raisons électoralistes américaines. Ce qui est en cause, c'est la nature même du système américain. Le système américain est, depuis 1804, un système fondamentalement bipartisan, démocrate et républicain. Lorsque Donald Trump est devenu président, le think tank géopolitique américain Stratfor avait dit qu'il existait des garde-fous qui étaient ceux de la sécurité nationale des États-Unis et que ces garde-fous ne permettraient pas à Trump de s'en écarter, pas plus aujourd'hui que Blinken ne peut le faire. Derrière ce système bipartisan qui dirige la politique américaine, au travers de commissions du Sénat et du Congrès des États-Unis, il y a évidemment l'action des lobbies. Derrière celui-ci, principalement dans l'affaire iranienne, il y a le lobby pro-israélien AIPAC. L'AIPAC avait littéralement été liquidisé par Netanyahou, comme l'exposait d'ailleurs la position de force du gendre de Trump, Jared Kushner. Aujourd'hui, les démocrates tentent de reprendre pied dans l'AIPAC et ils doivent pour cela justifier de leur bonne volonté vis-à-vis d'Israël. Ceci d'autant plus qu'une partie de la gauche du Parti démocrate est opposée à cette politique pro-israélienne. À partir de ce moment-là, la politique de l'administration Biden, c'est de s'aligner sur Tel Aviv et de chercher la confrontation avec Téhéran. C'est cela qu'il faut retenir de la fin. Tout cela, évidemment, est très mauvais pour la stabilité mondiale.
Merci pour ces précisions. Restez avec nous, M. Michel. M. Dupré, alors revenons au positionnement des pays européens. Avec cette affaire des sous-marins, les Européens eux-mêmes se sont rendus compte, pour reprendre cette déclaration du président français Emmanuel Macron, alors il faut sortir justement de la naïveté envers les États-Unis. Alors la question qui se pose concernant cette affaire nucléaire, l'accord nucléaire, le PGAC, pourquoi cette inaction de la part des pays européens? Parce que là, la République islamique d'Iran a toutes les raisons de critiquer les Européens, d'autant plus que l'Iran reste malheureusement toujours privé des avantages, en effet, de l'accord nucléaire.
Oui, ça c'est, il est très clair que les Européens ont adopté des réponses très timorées suite au retrait unilatéral de l'administration Trump. C'est le moins qu'on puisse dire, puisqu'on avait construit un instrument qui aurait dû permettre des échanges exclusivement libellés en euros entre le vieux continent et l'Iran, mais les échanges excluaient les ventes de pétrole et de gaz, ne reprenaient pas, ne facilitaient pas des investissements. Bref, une réponse qui était simplement théorique, une réponse sur le papier, mais qui n'avait aucune chance d'aboutir dans la réalité. Je crois qu'il faut vraiment se rendre compte de l'état actuel de profonde dépendance structurelle des Européens à l'égard de l'OTAN. Nous sommes dépendants, pour l'Europe, d'un point de vue géopolitique, est un moustique sur le plan militaire. Et de ce fait, aujourd'hui, nous sommes dépendants de l'OTAN. Vous savez, les déclarations d'Emmanuel Macron concernant le besoin d'en revenir à davantage de réalisme avec les États-Unis, c'est quelque chose qu'on a souvent entendu en Europe. On s'est plaint de l'hégémonie qu'exerçaient les États-Unis. Je rappelle tout simplement qu'en décembre 2020, l'Union européenne, la Commission européenne, disposait d'un accord bilatéral sur les investissements, un accord global sur les investissements avec la Chine, les États-Unis demandaient un droit de regard sur des négociations qui étaient menées entre l'Union européenne et la Chine, sans que les États-Unis ne doivent être, à un moment donné, impliqués dans les négociations. et on s'en plaint régulièrement, mais nous n'avons jamais dépassé ce stade de dépendance structurelle, ce qui veut dire que globalement, nous sommes appelés en Europe occidentale, si tant est qu'un jour il y ait d'autres changements, mais en l'état actuel des choses, toutes choses égales par ailleurs, nous sommes appelés à être placés sous une espèce de surveillance de la part des États-Unis en ce qui concerne les relations internationales. Cela dit, notre dépendance est réelle, mais elle est relative. L'Europe dispose d'un certain nombre de cartes qui lui permettent, malgré tout, de s'affirmer sur la scène internationale, ne fût-ce même que le fait d'être le premier marché de consommation au monde. Donc, dans des relations internationales, les aspects économiques peuvent aider les Européens à se ménager une porte de sortie, une forme d'autonomie par rapport aux États-Unis. Mais une émancipation totale, radicale, ça, pour l'instant, c'est tout à fait inaccessible. Et de surcroît, cette dépendance qui est la nôtre nous empêche de développer un regard réaliste sur la relation avec les États-Unis. Nous sommes toujours plus ou moins contraints d'espérer des choses de la part de Washington, d'espérer que les orientations de la Maison-Blanche et du Pentagone finissent tôt ou tard par rencontrer certains de nos souhaits, certaines de nos revendications à nous autres Européens. Donc pour l'instant, l'Europe est décevante sur ce dossier. J'ai presque envie de dire c'est normal. C'est dans l'ordre des choses. À terme, on risque quand même de voir, on devrait voir, malgré tout, l'Union européenne essayer de jouer un rôle plus ou moins complémentaire à celui des États-Unis et ne pas être complètement aligné sur Washington. Mais ce sera toujours sous la forme de nuances et jamais sous la forme d'une rétractation ou d'un point de vue critique global, massif et rendu public.
Merci encore, Monsieur Dupré. Monsieur Michel, donc aujourd'hui, l'avenir même de l'accord nucléaire est en jeu. Monsieur Dupré l'a rappelé à travers justement le PGAC, ce dossier nucléaire. C'est même la, en ce qui concerne les Européens, la souveraineté européenne qui est en jeu en quelque sorte. Alors là, quelle est la part de responsabilité des Européens dans cette incertitude, d'abord autour de ce dossier nucléaire iranien et en général en ce qui concerne les relations internationales et les relations transatlantiques?
Moi, je serais moins indulgent que mon collègue. L'Europe, c'est un géant économique, mais c'est un nain géopolitique. L'OTAN sert à assujettir l'Europe. À un moment donné, l'OTAN se présentait comme le bouc. En fait, c'est son harnais. L'Europe, depuis 1944, c'est une colonie yankee, c'est la principale de ces colonies. L'Europe, contrôlée par l'OTAN, c'est le deuxième poumon qui justement permet la superpuissance américaine. Et par exemple, la politique européenne de sécurité collective de l'Union européenne, celle de Mme Mogherini et aujourd'hui de M. Borrell, c'est une courroie de transmission de l'OTAN, comme le demande par exemple la politique du partenariat oriental vis-à-vis des républiques soviétiques qui ne vise qu'à étendre l'OTAN vers celle-ci. Il ne faut donc rien attendre des Européens. Ce sont des domestiques des Américains, et moi je vais plus loin, je dis que ce sont des carpettes sur lesquelles on s'essuie les pieds. Vous avez vu l'indignation d'ailleurs de Le Drian, etc., mais lorsqu'il a été interrogé par le Sénat français il y a 48 heures, M. Le Drian a fait porter la responsabilité à l'Australie, il a renvoyé l'ambassadeur français aux États-Unis, et il a expliqué qu'il n'était pas question de rompre ce qu'il appelle la relation transatlantique, que l'alliance américaine restait primordiale. L'alliance américaine, c'est une alliance fondamentalement inégalitaire, c'est celle d'un suzerain vis-à-vis de ses vassaux, comme fonctionnaient les empires du Moyen-Âge. Tout cela, évidemment, elle a des dommages collatéraux, c'est le PAIGC. Moi, je ne pense pas qu'on y reviendra. Et d'ailleurs, Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, a clairement exprimé son scepticisme. Et ce scepticisme, en fait, c'est la volonté des Américains de ne pas revenir à ce partenariat. C'est tragique pour la bonne volonté de l'Iran, c'est tragique pour la Chine et la Russie qui l'ont garanti, mais c'est une imposture vis-à-vis des puissances européennes. Depuis que Trump a quitté l'accord du PAIGC, Londres, Paris et Berlin soutiennent les positions de Trump qui sont qu'il faudrait revenir aux accords de Genève à condition que l'Iran renégocie ses accords, ce qui est inacceptable. Il faudrait que l'Iran fasse tomber son secteur balistique, laisse tomber sa politique de l'axe de la résistance, ce que l'Europe appelle elle-même d'ailleurs la politique agressive de l'Iran au Proche-Orient. Tout cela indique clairement que l'Europe n'est pas indépendante, qu'elle ne fait que porter les valises de Washington.
Merci infiniment. Monsieur Michel, une toute dernière question à Monsieur Dupré. Monsieur Dupré, il nous reste 3 minutes concernant l'avenir de l'accord nucléaire. Alors, est-ce qu'on pourrait faire confiance aux États-Unis? Est-ce qu'on pourrait entrevoir une certaine percée dans les prochaines négociations sur l'accord nucléaire? Ou bien l'Iran, eu égard justement aux récentes évolutions et dans l'état actuel des choses, a toutes les raisons de se retirer une fois pour toutes de cet accord?
Mais je crois que jusqu'à présent, il n'y a pas l'accord, il n'y a pas d'accord qui revienne, puisqu'il n'y a pas de nouvel accord à atteindre. Il faut revenir aux dispositions du PGAC de 2015. Donc je crois que tant que la porte n'est pas définitivement fermée, il faut continuer à négocier, faire preuve de fermeté. Je crois qu'il est dans l'intérêt aussi des États-Unis d'arriver à un accord malgré tout. Bien sûr, ils vont tenter d'étendre la portée de ces accords au secteur balistique, de porter atteinte à l'axe de la résistance, mais à terme, il est important pour les États-Unis de malgré tout continuer à avoir une présence relativement constructive dans la région, en tout cas à l'égard de l'Iran, puisque les accords économiques d'une profondeur inégalée qui ont été conclus entre votre pays et la République populaire de Chine, si les États-Unis n'y prennent garde et ne se positionnent pas de manière constructive, ces accords donneront à la Chine une influence tout à fait primordiale dans cette partie du monde et les États-Unis pourraient s'en trouver relativement déclassés. Donc il est important pour eux, il est important pour les États-Unis à moyen terme de se ménager une attitude constructive. Cependant, il faudra faire preuve de fermeté dans le dialogue. Les Américains vont encore être tentés pendant un certain temps de vouloir modifier la philosophie globale du PGAC. De fil en aiguille, plus ils seront confrontés à une attitude ferme mais constructive de la part de l'Iran, telle qu'elle s'est exprimée dans les déclarations du porte-parole du ministère des Affaires étrangères auprès du journal Le Monde, à terme, cela pourrait augurer, j'ai pas de boule de cristal, je le répète, cela pourrait augurer effectivement d'un retour, parce que au PGAC tel qu'il a été défini en 2015, parce que les États-Unis nous disposeront moins, en tout cas, de possibilités de prise sur ce dossier, dans la mesure où la Chine jouera un rôle de plus en plus crucial, car ils en sont très conscients aussi. Il faut envisager l'attitude des États-Unis de manière dialectique. Ils sont à la fois hégémoniques et arrogants et unilatéraux, et ils le sont parce que, d'un autre côté, ils se rendent profondément compte de la montée en puissance de la Chine, du retour au premier plan sur la scène internationale de la Russie, et donc fatalement, dans chaque dossier, ils auront tendance à jouer la carte de l'arrogance hégémonique dans un premier temps, et ça on l'a très très vite vu, on le voit depuis très longtemps en ce qui concerne le PGAC, mais on l'a vu aussi sur d'autres dossiers, ils finissent toujours par s'aligner sur la réalité qui est la leur, la réalité qui est la leur. Et on l'a vu avec l'Afghanistan. ils finissent à un moment donné par tenir compte des rapports de force réels tels qu'ils existent aujourd'hui.
Xavier Dupré, analyste politique, économiste depuis Bruxelles, Luc Michel, géopoliticien lui aussi depuis Bruxelles. Je vous remercie infiniment d'avoir bien voulu participer à cette édition du débat. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Merci, à très bientôt. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Au revoir et à très bientôt.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission consacrée à l'actualité africaine. L'Algérie organise d'importants exercices militaires et la télévision algérienne a diffusé des images de ces exercices qui se sont déroulés à la base navale de Mersel Kébir, située dans l'ouest du pays, sous la supervision du général de corps d'armée Saïd Tchengaïha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, et du général-major Mahfoud Ben Médar, commandant des forces navales. Mersel Kébir est la plus grande base navale algérienne située dans la côte de la ville d'Oran, également appelée la façade maritime ouest, car elle couvre les côtes frontalières avec le Maroc. Selon un communiqué du ministère algérien de la Défense, l'exercice tactique s'intitulé Dissuasion Kompong 2021 s'est déroulé avec la participation de sous-marins qui simulait une véritable bataille contre l'ennemi dans les profondeurs de la mer. Cette manœuvre s'inscrit dans le cadre de l'entraînement des forces navales à des opérations de combat proches de la réalité et de l'évaluation de la maîtrise du système d'armement moderne, selon le communiqué du ministère. Le communiqué ajoute que lors de la manœuvre, des missiles, des torpilles ont été lancés à partir de sous-marins contre des objectifs maritimes et les cibles en question ont été détruites avec succès. La manœuvre intervient dans un contexte marqué par une escalade de la crise entre l'Algérie et le Maroc, quelques jours après que l'Algérie avait décidé de fermer son espace aérien à tous les avions des civils et militaires ainsi qu'à ceux immatriculés au Maroc. L'Algérie appelle les Nations Unies à organiser un référendum pour décider du sort du Sahara occidental, dénonçant l'intransigeance du Maroc et exigeant le lancement de négociations directes entre le Maroc et le Polisario. L'Algérie appelle en même temps à la fin d'une injustice historique contre les Africains en Conseil de sécurité. Le chef de la diplomatie algérienne, Ramtane Lamamra, s'est exprimé ce lundi 27 septembre devant l'Assemblée générale de l'ONU. Dans son discours, il a réitéré les positions de principe de l'Algérie et son soutien aux causes justes, notamment celle de la Palestine et du peuple sahraoui qui lutte pour son indépendance. Concernant le conflit du Sahara occidental, Ramtane Lamamra a réaffirmé le soutien de l'Algérie au droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. Il a ainsi appelé l'ONU à assumer ses responsabilités juridiques envers le peuple sahraoui et à garantir ses droits inaliénable. L'organisation d'un référendum libre et équitable pour permettre à ce vaillant peuple de décider son destin et décider son avenir politique ne peut demeurer à jamais l'otage de l'intransigeance d'un État occupant, a-t-il dit. Le chef de la diplomatie algérienne a accusé le Maroc d'avoir failli à plusieurs reprises à ses obligations internationales, en particulier celles découlant du plan de règlement élaboré par l'Organisation des Nations Unies en partenariat avec l'Organisation de l'Unité africaine, de toutes les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité et de l'Assemblée générale. L'Algérie, pays voisin et observateur du processus politique, œuvre sur la base de ce principe à être une source de paix, de sécurité et de stabilité pour son voisinage, considérant que le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination est inaliénable, non négociable et imprescriptible, a rappelé le chef de la diplomatie algérienne. Dans ce contexte, l'Algérie appuie la décision du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine de lancer des négociations directes entre le Royaume du Maroc et la République arabe sahraoui démocratique, deux pays membres de l'Union africaine, a conclu le ministre algérien des Affaires étrangères. Sahara occidental, revers pour le Maroc devant la justice européenne. La justice européenne a infligé un revers au Maroc et à l'Union européenne en annulant deux accords de partenariat commerciaux concernant le territoire disputé du Sahara occidental à la demande des indépendantistes sahraouis du Front Polisario. Le tribunal de l'Union européenne annule les décisions du Conseil relatives d'une part à l'accord entre l'Union européenne et le Maroc modifiant les préférences tarifaires accordées par l'Union européenne aux produits d'origine marocaine, ainsi que d'autre part à leur accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable dispose un arrêt très attendu du tribunal basé à Luxembourg. Ces accords resteront toutefois en vigueur pendant toute une période de 2 mois maximum afin de préserver l'action extérieure de l'Union et la sécurité juridique de ses engagements internationaux selon le jugement. Dans une déclaration commune rendue publique à Bruxelles juste après l'annonce du tribunal du Luxembourg, l'Union européenne et le Maroc se sont engagés à poursuivre leur partenariat stratégique. Le Polisario a pour sa part salué une grande victoire. En Tunisie, le président Saïed a désigné Najla Boutend Romzan pour former un nouveau gouvernement. Il s'agit de la première femme à devenir premier ministre dans l'histoire de la Tunisie. J'ai décidé de vous charger de former un nouveau gouvernement, une première dans l'histoire de notre nation, de voir une femme à la tête du gouvernement, a-t-il dit à la nouvelle première ministre désignée. À l'issue d'une réunion de son bureau exécutif, le parti Ennahda a de son côté mis en garde jeudi contre les conséquences de désigner une nouvelle chef de gouvernement en dehors de la légitimité constitutionnelle. Bien que le mouvement Ennahda manifeste une pleine appréciation et un respect pour les femmes tunisiennes saluant leur lutte pour la liberté et l'égalité, il avertit que la nomination d'une première ministre, sans être lié à des procédures constitutionnelles et sur la base d'un ordre présidentiel inconstitutionnel avec des pouvoirs formels, ne fera qu'amplifier les crises économiques et sociales et n'aide pas à les résoudre, lit-on dans le deuxième point d'un communiqué officiel du bureau exécutif et du parti Ennahda. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a approuvé une nouvelle prolongation technique du mandat de la mission d'appui des Nations Unies en Libye. Les membres du Conseil n'ayant pas pu trouver de consensus sur un renouvellement substantiel du mandat. La résolution 2599 qui a été adoptée à l'unanimité par les 15 membres du Conseil a décidé de proroger le mandat de la Manil jusqu'au 31 5 janvier 2021. Les ministres en charge de l'élevage et de la santé animale de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, viennent d'adopter de nouvelles stratégies en vue de lutter efficacement contre les maladies animales transfrontalières en augmentation dans la région. Au terme d'une réunion de 2 jours à Abidjan, ils ont décidé de mettre en place un fonds régional de l'agriculture, un mécanisme régional de prévention et de lutte contre ces maladies telles que la grippe aviaire, la fièvre aphteuse, la peste des petits ruminants et la peste bovine. La réunion d'Abidjan a en outre passé en revue la situation épidémiologique en Afrique de l'Ouest, la préparation des plans d'action contre les maladies animales transfrontalières, l'évaluation des coûts, les propositions de recommandations relatives à la lutte et à l'éradication des maladies à animaux. Ici touche à sa fin cette émission. Merci infiniment de l'avoir suivi. Merci beaucoup pour votre fidélité à la radio francophone iranienne.